Chapitre 3. Une amitié avec Dieu est vivante quand nous entendons sa voix. Dieu aime communiquer. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Si tu m'écoutes, tu découvriras qu'un comportement juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera de la joie, la réflexion te gardera de l'erreur, et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir, elles te préserveront des hommes aux paroles mensongères. Ésaïe 1, verset 2, et Proverbe 2, versets 9 à 12. Après plus de 50 voyages missionnaires en Afrique, mais également sur 3 autres continents, je constate que l'une des questions qui revient sans cesse est la suivante. Comment entendre la voix de Dieu et connaître sa volonté? Cette quête universelle fait écho à l'enseignement de Jésus qui affirme que l'homme vit de ce que Dieu dit. Il s'en nourrit. Le pain de ce jour que nous lui demandons ne provient donc pas seulement du boulanger, mais aussi de la bouche de notre Créateur et Père. Notre corps se nourrit du pain des hommes, notre personnalité de toute parole que Dieu prononce. Matthieu 4, verset 4. L'être humain qui n'entend pas la voix de Dieu s'affaiblit, tâtonne et dépérit. Il est par conséquent absolument légitime de chercher à l'entendre. Cela ne concerne pas seulement les choix importants, comme celui d'un conjoint, d'un métier ou d'un lieu d'habitation, mais relève du quotidien. Il est en effet normal qu'un père s'adresse chaque jour à son enfant, et non 2 fois par an ou à 3 reprises durant sa vie. Dieu serait-il avare de paroles? Pas du tout. Il se différencie précisément des idoles en relevant qu'elles ont une bouche et ne parlent point. Psaume 115, verset 5 et 135, verset 16. Pour lui, communiquer avec nous est bien loin d'être secondaire. L'univers a été créé quand Dieu a parlé. Jésus est la parole venue habiter chez les hommes. Il est le Verbe de Dieu. La conversion à Christ nous fait passer d'une religion, parfois le simple culte de soi, à une relation. L'essence de cette relation est verbale, même si d'autres formes la complètent ou en sont les conséquences. Nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Maintenant nous savons, c'est pourquoi nous croyons. Jean 4, verset 42 et 16, verset 30. À qui Dieu parle-t-il? Dieu ne parlerait-il qu'au grand personnage? Bien au contraire, il a parlé à l'enfant Samuel et son message était loin d'être superficiel ou enfantin. Il a parlé à Gédéon qui se débattait avec ses complexes et ses questions. Il a adressé sa parole à Ananias qui avait peur de Saul et qui ignorait qu'il serait le témoin de l'une des conversions les plus importantes de toute l'histoire de l'Église. Dieu parle et la chose arrive. Que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Il parle à toutes ses créatures, à toute sa création, et même au diable. Jésus, image du Dieu invisible, a donné des ordres au vent, à la mer, au figuier, à des membres malades, à la fièvre. Il a pris autorité sur les esprits mauvais, mais surtout, il a parlé à tous les hommes qu'il a rencontrés, sans distinction de classe, de nationalité, d'âge ou de sexe. « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Jean 18, verset 37. Entendre la voix de Dieu est normal pour chaque chrétien. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom. Elles connaissent sa voix. Jean 10, versets 2 à 4. Nous sommes uniques, comme le sont nos empreintes digitales, notre caractère ou le timbre de notre voix. Notre nom n'est pas seulement celui qui est inscrit à l'état civil. Il inclut, aux yeux de Dieu, toute notre personnalité. Le Seigneur, en nous appelant par notre nom, veut nous introduire dans notre véritable destinée. Par ce moyen, le roi de l'univers nous invite à une amitié présente et éternelle avec lui. La voix du bon berger est pour les brebis, non pour les girafes ou les éléphants spirituels. Les nouveaux convertis entendent la voix du berger. S'ils restent attentifs et simples dans cette nouvelle amitié, ils continuent à bénéficier d'une communication authentique et grandissante qui n'aura pas de fin. S'ils s'endorment, négligent leur sanctification ou s'enorgueillissent, ils perdent ce précieux contact et commencent à tâtonner. Mais Jésus promet, « Celui qui me suit ne marchera pas comme à tâtons dans l'obscurité. Il aura la lumière qui mène à la vie. » Jean 8, verset 12. Quel objectif Dieu poursuit-il ainsi? Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, notre vie doit se construire, s'organiser et s'orienter à son écoute. Il parle, nous agissons, ouvertement par nos actes, dans le secret, en baignant chaque aspect de notre vie dans la prière. À ses disciples, Christ a dit, « Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Jean 15, verset 11. Il en prend l'initiative. En nous demandant de l'écouter, il nous confie ses trésors. Sa parole de vérité nous rend libres et purs. Il vous dit, comme à chaque homme ou femme de bonne volonté, « J'aimerais être ton ami. J'aimerais que tu apprennes à connaître ma voix. J'aimerais établir un dialogue personnel avec toi, fondement de ta mission éternelle. » Quand Dieu parle, comment le fait-il? Retenons avant tout que Dieu est Dieu. Il peut donc parler de manière audible, quand il veut, comme il veut, à qui il veut et dans n'importe quelle langue. Dans les nombreux récits bibliques qui en témoignent, le volume de sa voix varie du doux murmure au coup de tonnerre. Le peuple d'Israël au complet en a fait l'expérience devant le mont Sinaï. Le surlendemain, dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée. On entendit aussi une puissante sonnerie de trompette. Dans le camp, le peuple tremblait de peur. Le Sinaï était tout fumant. Toute la montagne tremblait. La sonnerie de trompette devint de plus en plus puissante. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Exode 19, versets 16, 18 et 19. Plus tard, dans la tente de la rencontre, Moïse parle avec Dieu comme un homme avec son ami. Exode 33, verset 11. L'enfant Samuel sera réveillé en pleine nuit par la voix audible de Dieu, qu'il confondra de prime abord avec la voix de son maître Élie. 1 Samuel 3. À trois reprises au moins, Dieu se fait entendre audiblement au cours du ministère terrestre de Jésus. À son baptême, une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Lors de la transfiguration du nuage, une voix se fit entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Peu avant sa mort, à Jérusalem, « Père, donne gloire à ton nom. » Une voix se fit alors entendre du ciel, « Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai de nouveau. » La foule qui se trouvait là et avait entendu la voix disait « C'était un coup de tonnerre. » D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Mais Jésus leur déclara « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est faite entendre, mais pour vous. » Matthieu 3, verset 17, Marc 9, verset 7, Jean 12, verset 28 à 30. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, relate la même expérience. « J'entendis derrière moi une voix forte qui résonnait comme une trompette. Elle disait, « Écris dans un livre ce que tu vois, et envoie le livre aux sept églises suivantes. » Sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Apocalypse 1, versets 10 et 11 et verset 15. Pour ma part, je n'ai jamais entendu Dieu me parler de manière audible, mais j'ai souvent demandé à mes auditeurs de lever la main si cela leur était arrivé. Étonnamment, il est très rare qu'aucune main ne se lève. En général, 5 à 10% répondent par l'affirmative. Le plus souvent, cela leur est arrivé avant ou au moment de leur conversion, comme ce fut le cas de Saul de Tarse. Si Dieu peut nous parler audiblement, il est vrai que ce n'est pas la norme. La plupart du temps, il utilise d'autres moyens, comme sa parole nous le confirme. Par sa présence en nous, il serait compliqué et laborieux de vouloir analyser ce qui se passe dans notre esprit. Disons simplement que l'Esprit de Dieu travaille main dans la main avec notre esprit, il l'habite. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Romains 8, verset 14 et Romains 8, verset 16, Jean 17, verset 21. Habituellement, Dieu dépose sa pensée dans notre esprit. Vous avez la pensée de Christ, affirme l'Écriture. 1 Corinthiens 2, verset 16. Parfois, la parole attendue est déjà là. Il suffit de faire silence et d'ôter les parasites pour la discerner. D'autres fois, il nous est communiqué plus directement. Nous saisissons alors le chemin le meilleur. Nous savons que nous savons, même si nous ne savons pas exactement comment nous le savons. Nous lisons, par exemple, un passage de l'Écriture et le Saint-Esprit l'applique à notre vie. Nous écoutons quelqu'un parler, chanter ou simplement converser, et ce même témoignage intérieur nous confirme qu'il y a là une pensée de Dieu à notre égard. Cela peut arriver en tout temps et circonstance, dans la rue, au travail, au restaurant, dans un rêve, etc. Même quand Dieu utilise d'autres moyens pour nous parler, ce témoignage intérieur vient attester l'authenticité de la source. Cette dernière est toujours en plein accord avec l'Écriture. C'est ainsi que nous pouvons marcher par l'Esprit et reconnaître Dieu dans toutes nos voies, tout au long de nos vies. Proverbe 3, verset 6. À la fin de ce chapitre, nous verrons en détail comment discerner la pensée de Dieu alors que nous la recherchons dans un but précis. Par sa parole écrite, la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec sagesse, à comprendre des paroles pleines de sens, à vivre de façon intelligente. Proverbes 1, versets 2 et 3. Si nous lisons notre Bible avec la foi qu'elle est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, nous serons bien nourris et aurons régulièrement des réponses avant même de poser nos questions. Certaines Bibles signalent en caractère rouge les paroles que Jésus a prononcées. Je m'en suis procuré une dans le but de m'y attarder, de les méditer, tout en sautant pour un temps les autres versets des Évangiles. Il est écrit en effet: autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Hébreux 1, versets 1 et 2. Étudier la pensée de Christ nous permet de nous en imprégner, d'en assimiler les principes et les valeurs. Dieu attend de nous non pas une obéissance mécanique, mais une adhésion de cœur. Si, dans nos rendez-vous avec lui, il nous parle essentiellement par son esprit et par sa parole écrite, il emploie en d'autres circonstances différents moyens encore. Par ceux qui lui appartiennent, car les recommandations sont comme une lampe, les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin de la vie. Proverbe 6, verset 23. Je connais des personnes qui supplient constamment Dieu de leur parler, mais quand il le fait par ses enfants, c'est, à leurs yeux, sans valeur aucune. Ils ne discernent rien et continuent à se lamenter. Pourtant, l'Écriture nous interpelle. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Et s'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs? 1 Corinthiens 12, verset 17. Le croyant, bien que temple de l'esprit, doit pourtant reconnaître la complémentarité et l'équilibre que Dieu lui apporte par ses frères et sœurs en Christ. Par les ministères établis et les dons de l'Esprit, celui qui prêche sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes, ses paroles les édifient, les exhortent, les consolent, elles les aident à prendre les décisions opportunes, stimulent leur progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. 1 Corinthiens 14, verset 3. Dieu a donné à l'Église des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes et des apôtres pour son édification. La parole de sagesse et de connaissance, tout comme la prophétie et d'autres dons encore, peuvent véhiculer la pensée de Dieu pour un individu ou un groupe. Le jour de la Pentecôte, une multitude cosmopolite a entendu les premiers chrétiens parler des merveilles de Dieu, chacun dans sa langue maternelle, langue que les disciples en question ne connaissaient pas. Actes 2, versets 1 à 11. Par les anges, un ange du Seigneur dit à Philippe, « Tu vas partir en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » Actes 8, verset 26. De cette directive dépendra la conversion d'un homme qui avait entrepris un voyage de 4000 kilomètres pour venir adorer l'Éternel à Jérusalem. J'ai trouvé 47 passages dans l'Écriture où nous voyons un ou plusieurs anges s'adresser aux hommes. Les dialogues qui s'en suivent sont aussi réalistes que concrets. Ces messagers parlent toujours de la part du Seigneur et non de leur propre initiative. Dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé de cette façon à de nombreuses personnes. À Joseph, à Zacharie, aux bergers, à Marie, à Jésus, à Marie de Magdala, à Marie, mère de Jacques, aux disciples, à Philippe, à Corneille, à Pierre, à Paul et à Jean. Par des visions, voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Actes 2, verset 17. Par ce moyen, l'Église naissante entrera concrètement dans l'évangélisation des nations. Comme déjà mentionné, Dieu préparera ainsi Ananias pour qu'il conduise Saul à la conversion. Par la suite, ce dernier sera, lui aussi, encouragé par des visions dans ses voyages missionnaires. Par des songes, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, quand les hommes sont endormis, allongés sur un lit. Il leur apporte alors une révélation et il les avertit définitivement. Il veut les détourner de leurs agissements. Il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort. Job 33, versets 14 à 18. Joseph, père adoptif de Jésus, recevra 4 directives cruciales par ce moyen. Épouser Marie, fuir en Égypte, revenir en Israël et s'établir à Nazareth. Par les autorités établies, chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Romains 13, verset 1. Que ce soit nos parents, nos professeurs, les autorités civiles, notre entraîneur sportif ou encore la caissière du supermarché, chacun a droit à notre respect et à notre obéissance dans son domaine d'autorité. Si la police nous arrête pour un excès de vitesse et qu'elle nous inflige une contravention, il est inutile de demander au Seigneur si nous devons ou non la payer. L'autorité a déjà parlé. Par les circonstances et par divers autres moyens. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Les prophètes, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Daniel 2, verset 21, 1 Pierre 1, verset 10 et 11, et Proverbe 3, verset 6. Il arrive fréquemment que Dieu nous surprenne, enrichisse nos projets ou facilite une démarche en permettant des conditions favorables ou inattendues. Nous y reconnaissons sa main de berger. Lorsqu'il nous parle et que sa paix remplit nos cœurs, les circonstances qui suivent sont une indication supplémentaire que nous sommes sur le bon chemin. Il en est ainsi pour les finances auxquelles Dieu pourvoit, en confirmation à ses directives. Des circonstances, de prime abord négatives, peuvent également nous servir de garde-fous. Dieu corrige aussi l'homme par la souffrance. Job 33, verset 19. Bien entendu, lorsque Dieu nous a clairement parlé et que des circonstances adverses se dressent sur notre route, il faut à ce moment-là tenir ferme et persévérer. Ce serait dramatique, comme beaucoup le vivent, de se laisser guider par les embûches du diable. Dieu parle encore par sa création, par ses jugements et par ses œuvres. Il a même parlé à un prophète borné par son ânesse, et Jésus a dit qu'en cas de nécessité, Dieu pourrait aller jusqu'à faire crier des cailloux. Que penser des signes? Quelqu'un a dit, « Le vrai chrétien ne suit pas les signes, mais les signes le suivent. » On se sert parfois de l'exemple de Gédéon, qui plaça une toison devant l'Éternel, pour tenter Dieu en lui proposant des toisons aussi fréquentes que farfelues. Ces personnes oublient que Gédéon avait déjà reçu la parole de Dieu et qu'il cherchait dans un contexte particulièrement grave une confirmation. Rechercher la volonté de Dieu en plaçant des signes est une pratique dangereuse qui glisse très vite dans la superstition. Dieu n'est ni un distributeur de caramel, ni une idole que nous approchons avec des amulettes, fussent-elles évangéliques. Il est notre Père. Les signes sont généralement des oreillers de paresse pour ceux qui ne veulent pas chercher diligemment la pensée de Dieu. Peut-on ouvrir sa Bible et pointer son doigt au hasard? Chacun pourra trouver des témoignages où Dieu, dans sa bonté, a parlé de cette manière. À circonstances exceptionnelles, réponse exceptionnelle. Mais l'homme étant ce qu'il est, trop souvent nonchalant, bigot et rapidement embourbé dans ses travers, je vous conseille vivement de vous tenir éloigné de cette pratique qui dérape dans le vide, le ridicule et parfois le magique. Pour ne pas épiloguer sur ce procédé pour le moins ambigu, abordons-le plutôt par l'histoire désopilante et fictive d'une brave chrétienne qui cherchait la volonté de Dieu, munie d'une sainte aiguille. Un matin, après avoir ouvert sa Bible au hasard, elle planta son aiguille sur un verset et lut. Judas alla se pendre. Interloquée et ne sachant qu'en penser, elle s'autorisa un deuxième essai. « Va, et toi, fais de même. » Crédule et d'une obéissance aveugle, elle choisit une branche du cerisier de son jardin et s'y pendit. La branche céda, laissant notre héroïne déboussolée. Exceptionnellement, elle reprit son aiguille et la piqua dans un troisième passage. « Repends-toi !» Malheureusement, sa connaissance de l'orthographe n'atteignait pas son niveau de sottise, et, cette fois, la branche tint bon. Si vous ouvrez votre Bible au hasard, c'est le hasard qui finira par vous guider. Exercez le discernement spirituel. Dans tout ce que nous avons considéré, l'attestation de l'esprit dans notre esprit et l'harmonie avec la pensée biblique sont cruciales. Les brebis doivent fuir l'étranger. L'apôtre Paul l'a souligné, on ne peut plus fortement, en disant « Si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. » Jean 10, verset 5, Galates 1, verset 8. Examinez toutes choses et n'attribuez jamais une parole à Dieu, quel que soit le véhicule de transmission, sans ce fondement. Plusieurs voix peuvent se faire entendre de notre tête. Quelles sont-elles? Notre propre voix, ce qui est évidemment normal et légitime, mais non en confusion ou en concurrence avec celle de Dieu. Celle de l'ennemi, tel un parasite sur une ligne téléphonique ou un imitateur cherchant à détourner la communication à son profit. Celle de Dieu. Discerner correctement est un défi. Heureusement, ces différentes voix ont des caractéristiques qui leur sont propres. Les connaître est de la plus haute importance. Les caractéristiques de notre propre voix. Elle est tournée vers soi. Elle tient compte des circonstances. Elle se trompe. Sa vision est étroite, étriquée. Elle n'a rien d'original. Notre propre pensée reflète la maturité qui nous correspond, avec ses imperfections, ses culpabilités, ses relents de légalisme. En un mot, elle nous ressemble. Nous allons vider la boîte aux lettres en ayant l'impression d'avoir reçu le courrier attendu, mais il n'y a rien. Nous téléphonons à un ami pour l'inviter pour le week-end, il est en vacances. Ce genre d'expérience que nous avons cru y discerner une pensée inspirée doit nous permettre d'affiner notre discernement. Les caractéristiques de la voix de l'ennemi. Son pouvoir d'imitation est réel, mais ses fruits sont pourris. Agacement, douleur morale, amertume, fatigue, abattement suivent son écoute. Cela se produit aussi quand il trouve un canal humain, parfois bien intentionné, pour parler, comme ce fut le cas de Pierre voulant détourner Jésus de sa mission. La voix de l'ennemi est pesante, elle ne produit pas la paix, elle apporte au contraire des fardeaux lourds à porter. Elle met nos journées et nos vies en désordre. L'ennemi ne respecte pas notre libre arbitre. Il le viole. Sa voix nous oblige parfois à une action immédiate, irréfléchie. Il sait que ses exigences sont insensées. Il aimerait que nous agissions avec précipitation, car, avec le recul nécessaire, nous pourrions discerner le piège. Certains esprits religieux parlent sans cesse. Ils se transforment en dictateurs. Un chrétien mal affermi peut croire, au début, que cette voix qui se mêle de tout est celle de l'Esprit de Dieu, et qu'il est ainsi parvenu à un sommet spirituel. En réalité, elle l'accable et l'emprisonne. Une voix qui parle n'importe comment, n'importe quand ou sans arrêt n'est pas saine. Quand le malin ne peut nous retenir, il cherche à nous pousser dans l'activisme, le légalisme ou le fanatisme. Il y a deux choses que l'ennemi ne fait jamais, aimer et s'humilier. Ses pensées se fondent sur le mensonge, la haine et l'orgueil. Les caractéristiques de la voix de Dieu. Sa voix, son caractère, sa grandeur et sa vision forment une harmonie. Le plus souvent, ce que Dieu nous dit est bien plus grand, plus merveilleux que ce que nous aurions pu imaginer ou élaborer dans notre tête. Il n'y a aucune contradiction entre sa pensée et sa parole écrite. Dieu est lumière, ce qu'il dit est clair, direct. Il nous aide à organiser et à construire nos vies. Il est amour. Quand il parle, nous nous sentons parfaitement connus de lui, mais aussi aimés. Il est saint. Le contenu de ses paroles est toujours pur. Elles ont la maturité pleine d'assurance d'un père ferme et aimant. Le Saint-Esprit respecte notre liberté et notre personnalité. Il veut que nous suivions ses plans volontairement. Remarquons au passage qu'habituellement, quand il s'exprime, Dieu n'est pas subjugué par l'émotion. Il ne sanglote pas, il ne crie pas, il ne tremble pas et ne prend pas une voix théâtrale. Pourquoi donc tant de chrétiens se croient-ils obligés de le faire quand ils parlent de sa part? L'attitude adéquate pour entendre la voix de Dieu. Depuis le jour où l'on m'a enseigné comment entendre la voix de Dieu, la compréhension de l'attitude que Dieu attend de moi pour cela m'a été utile des milliers de fois. Avec mon épouse, il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons ensemble, parfois à plusieurs reprises, à chercher la pensée de Dieu face à telle décision à prendre. J'ai constaté là encore que notre prédisposition de cœur fait la différence entre un silence total, ou pas mal de confusion, et la paisible conviction que Dieu a parlé. Sans revenir sur l'enseignement du chapitre précédent, approchons-nous donc de Dieu, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience. Hébreux 10, verset 22. Je vous livre ici ce qui fait toute la différence. La foi. De quelle foi s'agit-il? Quand un fils s'approche de son père pour lui poser une question, il croit naturellement qu'il va recevoir une réponse. Avec Dieu, c'est pareil. Celui qui s'approche de lui en doutant qu'il va répondre, ou, pire encore, avec la certitude qu'il n'obtiendra aucune réponse, s'enlise. Dieu a en effet choisi la foi comme point de connexion. Pourquoi? Parce que croire qu'il récompense ceux qui le cherchent, c'est l'honorer. Douter de sa volonté de répondre, c'est douter de lui, de sa bienveillance, c'est le déshonorer. Dieu est humble, mais il n'est pas servile pour honorer celui qui le déshonore. 1 Samuel 2, verset 30. S'approcher de lui pour écouter son conseil demande un certain effort, un choix conscient, celui de croire qu'il va nous parler. Je me suis tant de fois surpris à chercher sa face en ayant la certitude que de toute façon, je n'obtiendrai aucune réponse. C'est la première raison et la plus fréquente pour laquelle Dieu doit garder le silence. Heureusement, nous pouvons nous en repentir. Croyons-nous que nous avons plus d'importance pour lui que les fleurs des champs qu'il revêt ou les oiseaux qu'il nourrit? Croyons-nous que celui qui compte les cheveux de notre tête veut aussi nous enrichir de sa pensée? Approchons-nous alors de lui avec la foi simple de l'enfant qui se sait aimé de son père. L'humilité. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice, il leur enseigne sa volonté. Psaume 25, verset 9. Être humble devant Dieu, est-ce faire triste mine, courber le dos ou pencher la tête? Non, pas du tout. Savez-vous que vous pouvez être joyeux et humble? Ce qui empêche Dieu de nous parler, c'est l'attitude péremptoire qui consiste à revendiquer et exiger, à l'appeler Seigneur tout en s'adressant à lui comme à un serviteur. Quand quelqu'un réclame son conseil dans le seul objectif de conforter ses propres idées, Dieu garde le silence. J'ai connu une missionnaire remplie de qualités, mais qui me donnait l'impression de ne pas laisser à Dieu le droit de lui parler autrement que par des versets. Au risque de choquer, je dois dire que même cela, nous ne pouvons l'exiger. Dans plusieurs domaines, et non des moindres, elle accumulait des chaînes de références supposées prouver le plan de Dieu. Elle s'est parfois malheureusement lourdement trompée avec, pour conséquence, des fardeaux énormes et inutiles à porter. L'humilité implique une attitude de souplesse, une prédisposition favorable à ce qui pourrait être la volonté de Dieu. Je ne peux lui imposer ni mes idées, ni la façon dont il va me parler. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Proverbe 9, verset 12. Savoir attendre en silence, poser une question, c'est donner à notre interlocuteur le droit de répondre. David disait « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme ». Et Ésaïe prophétise « Il, faites silence pour m'écouter ». Psaume 131, verset 2, Ésaïe 41, verset 1a. Il est étonnant de constater combien peu de disciples, de conseils d'anciens, de comités divers et de groupes de maisons ont appris à faire silence, ne serait-ce que 2 minutes, pour écouter le conseil de Dieu. Nous sommes remplis de questions, nous en parlons, nous intercédons, nous gémissons, nous supplions, puis nous nous séparons sans avoir écouté un seul instant. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais appris à écouter Dieu en silence, à attendre dans sa présence, ou que nous ne croyons tout simplement pas que ce soit utile. Le président d'une rencontre où le conseil de Dieu est recherché doit avoir le courage de conduire les personnes présentes dans un temps concret d'écoute. Le débat est clos, les prières cessent et chacun écoute en silence. Le partage qui suit ne doit pas redevenir conversation avant que tous ceux qui ont discerné une pensée de l'esprit ne se soient exprimés. Celui qui dirige proposera un condensé de toutes ses pensées qui, si tous les membres le jugent inspiré, orientera les décisions à prendre. Avez-vous déjà vu un maître entraîner son chien à se dresser sur les pattes arrière pour obtenir le biscuit qu'il lui tend? Beaucoup s'imaginent que c'est ainsi que Dieu dispense ses conseils, attendant que nous fassions le beau une quinzaine de fois avant de daigner nous parler. Cette vision est injuste. bien qu'elle soit sous-entendue par une certaine théologie. Un père ne teste pas ses enfants chaque fois qu'il leur adresse la parole. Dieu non plus. Pourtant, la réponse se fait parfois attendre. Que devons-nous en penser? Il arrive que Dieu nous fasse comprendre que, pour l'objectif recherché, une ou plusieurs personnes manquent dans le groupe d'écoute présent. Lorsque la Samaritaine demande à Jésus l'eau de la vie, il lui répond « Va appeler ton mari et reviens ici. » Jean 4, verset 16. Il peut aussi arriver que notre demande soit indiscrète, c'est-à-dire que la réponse ne nous concerne pas vraiment, ou encore que les options entre lesquelles nous hésitons soient toutes mauvaises. Un autre élément suspend ou brouille parfois la communication. Il s'agit du cas où l'événement futur, pour lequel nous prions abondamment, n'aura pas lieu. Dieu le sait, mais nous ne pouvons le concevoir avant que l'information nous parvienne. Il ne va cependant pas construire un plan avec nous pour rien. Tout cela peut engendrer une attente difficile à comprendre. Restons cependant confiants que son désir est de nous éclairer. Désirez fermement obéir. Dieu dépose le diamant de sa pensée quand l'écrin de notre cœur est prêt à le recevoir comme un trésor. Il ne s'est pas engagé à révéler sa volonté à ceux qui veulent seulement la connaître, mais à ceux qui veulent l'accomplir. Une échéance qui se rapproche peut aiguiser notre sérieux. Dieu aurait bien voulu nous parler plus tôt, mais notre insouciance aurait rendu son conseil à bien plaire. Il attend alors que notre désir d'accomplir sa volonté se renforce. David lui-même semble en avoir fait l'expérience quand il s'écrit « Ne reste pas sourd envers moi, de peur que, si tu gardes le silence, je ne sois comparable à ceux qui descendent dans la fosse. » Psaume 28, verset 1. Si nous voulons grandir dans l'écoute de la voix de Dieu, nous devons obéir quand il nous parle, que ce soit pour nous-mêmes ou pour un groupe réuni. Si, dans une réunion d'intercession, nous recevons un sujet de prière, exprimons-le à haute voix. Si nous recevons quelques paroles d'encouragement, transmettons-les. Si nous avons l'intuition de devoir lire tel verset, lisons-le. Dieu donne la semence au semeur, non à celui qui la cache. Celui qui ne prend aucun risque ne progresse pas. Donnez et il vous sera donné, sans quoi la flamme pourrait s'éteindre. Si c'est votre cas, confessez votre faute et engagez-vous tout à nouveau sur le chemin de l'obéissance. Il vous restaurera. Passez à la pratique. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Proverbe 3, verset 7. Ce verset est d'une incroyable précision. Il résume ce que nous venons de voir. Je vous invite à le méditer. Quand vous cherchez la pensée de Dieu, 1. Déclarez-lui votre obéissance en lui soumettant vos propres pensées. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ordonnez le silence à votre imagination. 2. Résistez à l'ennemi. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Jacques 4, verset 7, Éphésiens 6, verset 11. Éliminez les influences parasites. 3. Formulez clairement votre question, puis écoutez. Gardez une attitude d'adoration. Il ne s'agit pas de faire le vide intérieur. Dans de multiples pratiques occultes, l'ennemi incite les gens à cela pour mieux les manipuler. Lorsque nos pensées sont pleines du Seigneur, que notre regard spirituel est tourné vers lui, nous sommes actifs et pourtant attentifs. C'est là que le Seigneur nous parle. Dieu aime nous enseigner ses principes. Il ne veut pas que nous mettions de côté tout ce que nous avons appris de lui depuis que nous le connaissons, mais au contraire que nous nous en souvenions. Dieu aime quand nous cherchons sa face. Il aime quand nous le consultons. La plupart du temps, il ne répondra pas par oui ou par non, mais il nous instruira, nous fera saisir sa pensée. Cette sagesse-là ne peut être le fruit de notre imagination. Le chapitre 8 du livre des Proverbes est une mine d'informations sur le sujet traité et contient cette divine promesse. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. Proverbe 8, verset 17. Dans votre cahier de culte personnel, vous pouvez noter les points du sujet que vous voulez particulièrement retenir et mettre en pratique, les questions personnelles que vous posez à Dieu, les réponses reçues, les témoignages de la façon dont il vous a parlé.